WGR, la radio des grands reporters et des écrivains voyageurs.
Rencontre. En partance, de retour, là-bas. Des mots, des sons et des images. Jean-Pierre Lafont. Par Michel Puech.
Le photographe Jean-Pierre Lafont est un pilier des agences de presse françaises du XXe siècle. Tout jeune, au Maroc, grâce à la plongée sous-marine, il s'initie à la photographie. Sa mère lui offre un Leica. Il rejoint en Suisse la célèbre école de photo de Vevey, où il fait la connaissance d'Hubert Henrotte, qui fondera plus tard les agences Gamma et Sigma. À la fin des années 60, il débarque à New York et s'installe avec sa femme Eliane. Les Lafont créent le bureau américain de Gamma, puis celui de Sigma, une success story. Jean-Pierre a photographié les personnalités et les événements majeurs de la seconde partie du XXe siècle. La guerre d'Algérie d'abord, où il fut soldat, puis celle du Vietnam, les conflits d'Amérique centrale et ceux d'Amérique latine. Sa curiosité des hommes l'a conduit à immortaliser le monde et surtout les États-Unis qu'il n'a cessé d'aimer et de parcourir. Rencontre avec Jean-Pierre Lafont, qui publie « Le paradis d'un photographe ».
Un beau jour, j'ai fait un beau reportage sur les prisons dans l'Arkansas, et au culot, je suis rentré dans la prison, j'ai eu la permission du gouverneur de l'État d'Arkansas. J'ai pu rentrer dans la prison, y passer une journée, et j'ai fait des photos assez fortes. Paris Match, par l'intermédiaire du reporter associé, a fait beaucoup de pages, 6 ou 8, je ne me souviens plus. Et à ce moment-là, un inconnu dans la foule m'a écrit, c'était Hubert Henrotte.
Hubert Henrotte qui créait Gamma à l'époque.
Alors, il m'a envoyé une lettre et il m'a dit, est-ce que tu es le Lafont que j'ai connu à Vevey ? Parce que si tu es Lafont, vraiment, je me souviens de toi. Et j'ai créé une petite identité qui s'appelle Gamma, qui commence à bien marcher. J'ai créé en 68, on est 5 associés. Et si tu veux, je peux te faire rentrer dans cette agence avec un minimum garantie comme correspondant étranger. Et je suis rentré, et Hubert m'a donné un contrat avec un minimum garantie de $300 à l'époque, qui a commencé en avril 69.
Et tu avais déjà rencontré Eliane Lafont ?
Ah bien sûr, j'avais rencontré Eliane Lafont en 62, rentrant d'Algérie, qui était une copine de mon frère au Maroc. Et puis un jour, quand j'étais chez Sam Levin comme assistant, j'avais une petite voiture, je bouscule une folle qui passe, alors que c'est feu vert pour moi, la nuit, rue Alfred de Vigny, et je la bouscule, j'entends poum, et je dis que c'est une folle. Et bien c'était Eliane, j'ai reconnu. Et puis voilà, quoi, ça a commencé notre aventure à partir de mai 64. On a commencé à être vraiment ensemble. Quand je suis parti aux États-Unis, elle ne pouvait pas me suivre, bien sûr, et je l'ai présenté à Michel Ray, qui est la femme de Costa Gavras aujourd'hui, et Michel faisait un rallye automobile avec deux R4L, avec deux autres filles, et elle a fait, donc, Terre de Feu, Alaska. On s'est retrouvés au bout du chemin de l'Alaska, elle est passée par New York, on avait pas cessé de s'écrire, et puis elle est venue me rejoindre, et en décembre 66, nous sommes mariés. On a été du reste un peu surpris. On s'est retrouvés devant le maire qui nous a engueulés en disant mais où sont vos témoins ? Et il m'a dit, mais monsieur le maire, vous ne nous avez pas demandé d'amener nos témoins. Mais on ne peut pas vous marier si vous n'avez pas de témoins. Donc j'ai payé $1,50 les témoins professionnels qui étaient là. Et on s'est retrouvés mariés. Gamma avait un représentant qui s'appelait Pix à New York et qui allait prendre sa retraite. Donc il cherchait vraiment à ne plus représenter Gamma. Hubert est venu à New York, donc on a eu une réunion, je vais présenter Eliane. Et il s'est tourné vers Eliane et il a dit, mais et pourquoi vous ne représenteriez pas le député Monsieur Roth, vous savez, moi je vends des meubles aux États-Unis, je tiens des boutiques de meubles antiques, je fais également des tours de touristes pour les touristes français avec deux compagnies de touristes qui me prennent comme guide. Je vends de la photo, ce n'est pas mon métier, mais j'adore la photo. Jean-Pierre m'a montré ses développements, j'adore toutes les photos. Mais il dit, Hubert lui a dit, mais vous apprendrez. Et alors, Eliane est partie avec des photos sous le bras, des premiers arrivés de photos. Elle est allée à Time Magazine, c'est pas démonté. Elle a acheté Time, elle a vu l'ours, et elle a appelé Grunewald, qui était le président de Time Magazine, donc c'est celui qu'il ne fallait pas voir. Et elle a dit, je veux un rendez-vous avec vous. Et il lui a dit, non, c'est pas avec moi, vous allez avoir rendez-vous avec le directeur de la photo, avec le directeur de la photo qui s'appelait à ce moment-là John Durniak. John a vu arriver Eliane, il a vu les photos, et il lui a dit, ah, c'est ça, gamin, mais c'est formidable, je vais vous donner une garantie. Et Eliane a dit, c'est quoi une garantie? Il dit, ben voilà, garantie, ça veut dire que chaque fois que vous recevrez une enveloppe, toutes les semaines ou tous les 10 jours, vous recevez une enveloppe, vous êtes le premier, je vais être le premier à la voir. Vous l'ouvrirez pour moi. Et il lui dit, bon, entendu, et vous me donnez combien pour ça? Il dit, ben je vais vous donner $500 par mois. Elle lui a dit, écoutez, moi, ça me semble bien, mais je voudrais $5,000. Et il lui a dit, vous allez faire du chemin, ma petite. Et c'est d'accord. Et ça a commencé. C'est une belle histoire qui s'est... Puis ensuite, il y a eu Newsweek, etc., etc. On a monté... On a été deux, on était dans notre appartement, on a loué un appartement en dessous de nous.
Toi, comment tu travailles à ce moment-là?
À ce moment-là, moi, je travaille directement avec Hubert, au téléphone la plupart du temps, venant surtout faire les VIP européennes qui sont de passage à New York, également ce qui se passe à Washington, beaucoup aux Nations Unies, beaucoup de problèmes aux Nations Unies, tous les problèmes politiques, les suivre aussi. Donc j'ai commencé à faire mon nom tout doucement, avoir mes photos parues dans l'Express très régulièrement, dans Usine Nouvelle. J'ai commencé à comprendre ce que c'était que l'illustration. Et j'adore l'illustration. Tout en faisant du photojournalisme, l'illustration, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est très, très difficile à faire. En une photo, tu peux penser à ce que les écrivains veulent pouvoir, en une image, dire voilà l'importation, voilà l'exportation, voici la sécurité dans les rues, voilà les modes de transport, voilà les graffitis sur les murs, voilà. Tu vois, de ces illustrations solides et dures qu'il fallait pour nos archives vierges de Paris, surtout sur l'Amérique. Et j'ai commencé beaucoup là-dessus. Puis il y a eu les conventions, il y a eu la guerre de Vietnam, il y a eu les protestations. Je suis arrivé en très très bon moment aux États-Unis. Et n'oublie pas qu'à cette époque-là, un petit peu avant du reste aussi, il y avait beaucoup, les Noirs se révoltaient beaucoup. Il y a eu Watts, Harlem, Miami, Plainfield. Et surtout, il y a eu les tanks dans les rues à Détroit, avec la garde nationale. Donc je me suis dit, c'est formidable, j'arrive à un moment en pleine révolution. Je me suis planté, ce n'est pas du tout une révolution, c'est une évolution, puisque tu as bien vu Ferguson dans le Missouri il n'y a pas tellement longtemps. Ça bourgeonne, c'est très long, les États-Unis changent, les ennemis vont changer, les ennemis vont changer sûrement, mais quand? Ça va prendre du temps, ça c'est sûr. J'ai beaucoup de chance, j'ai vu l'Amérique un petit peu avec un œil un peu étranger. Et par exemple, pour Watkins Glen, qui était le premier festival à dépasser 1 million de personnes, festival de rock, beaucoup plus important que tous les précédents, j'avais un long télé, j'avais un 180 Leica, c'était très lourd, je travaillais avec le Leica Mott, c'était des gros machins, pesant comme un camion autour du cou. Et il y avait tout d'un coup dans mon champ, j'ai vu ce couple s'embrasser sur la bouche, et tout le monde est flou, et devant et derrière eux. Ils sont seuls au monde, Et Life en a fait leur back cover. Et donc, ils m'ont donné régulièrement des choses à faire, des gens à photographier. Je n'aimais pas trop. Je n'ai jamais aimé travailler en assignment. Travailler en assignment, travailler en commande, ça veut dire que tu es comme un cheval. Tu as des œillères à droite et à gauche. Tu regardes dans la direction que veut le magazine. Et en réalité, les photos sont à droite, les photos sont à gauche. Et tu regardes que dans l'axe du magazine. Donc, tu perds ton temps. J'ai toujours détesté travailler en commande. J'ai toujours détesté. Donc, tu lis les journaux, tu pars avant eux, et quand tu es sur place, tu leur dis éventuellement, vous voulez une garantie, parce que je suis là à tel endroit, à tel tremblement de terre, hein, j'y suis là depuis hier. Puis en plus, comme j'avais mon passeport français, j'arrivais deux jours avant les Américains, parce que les Américains, pour aller n'importe où, leur font visa. Donc, la presse américaine m'utilisait énormément. J'ai très vite eu des contrats avec Time, avec Newsweek. Avec Newsweek, j'ai fait beaucoup l'indépendance de l'Angola, l'indépendance du Mozambique. Je travaillais beaucoup sur ces mouvements portugais. Et puis ensuite, en Inde, j'ai travaillé énormément pour Time Magazine. J'ai suivi Indira Gandhi pendant toutes ces campagnes, pendant près de deux ans. J'étais avec elle un peu partout en Inde. En 1972, la guerre bat son plein aux États-Unis, il y a des protestations, je vais à Guam, je photographie les bombes, parce que tout le monde parlait des bombes, on bombardait Hanoï tous les jours, mais personne ne savait d'où venaient ces bombes, où elles étaient, et j'ai eu la permission du US Air Force d'aller à Guam. J'ai photographié donc les gars dans leur avion, j'ai photographié le pouce gauche du bomber, de celui qui pousse les bombes vers le sol, dans les B-52, et je suis resté pendant deux jours avec eux, et j'ai photographié ces bombes. Le New York Times, à ce moment-là, il y avait une page qui s'appelait l'OPED, O-P-E-D, page du New York Times. Il y avait un éditeur qui s'appelait Jean-Claude Suarez. Et il a pris mes photos des bombes et il en a fait une double page en noir et blanc. Et depuis, pratiquement tous les jours, j'ai eu des photos dans le New York Times. Donc j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. J'ai démarré beaucoup là. Et quand il y a eu le Watergate, qui a fait deux ans plus tard, j'ai fait la fin de Nixon. J'ai fait tout le Watergate à Washington. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, à la Maison-Blanche. Jusqu'au départ de Nixon. Et je dois dire que là, le départ de Nixon, puisque j'étais accrédité Maison-Blanche, je ne voulais pas, à midi, photographier le serment de Ford, le nouveau président. J'ai préféré continuer à regarder le départ de Nixon. Et il est rentré dans son hélicoptère, il a fait un grand V, comme il le faisait chaque fois, toujours très heureux. Et il est rentré dans l'hélicoptère, et là, je me suis retrouvé à côté de Annie Leibovitz, à ma droite, et il y avait le tapis qui était retenu par les gardes qui perdaient leur casquette, et l'hélicoptère foutait le camp. Donc j'ai eu cette photo un peu comique, dramatique à la fois, et pendant ce temps, Ford lui prêtait serment. Mais comme j'étais accrédité, j'avais le droit au pôle, donc j'ai rien perdu.
L'année suivante, en fait, Gamma va exploser et Sigma va être créé. Vous, Eliane Lafont et Jean-Pierre Lafont, qui étaient les piliers de Gamma New York, comment ça se passe pour vous ?
Michel, ça a été très douloureux d'entendre la voix d'Henri Bureau qui m'appelle en me disant « ça va mal ». Allez, Jean-Pierre, viens, prends l'avion, ça va mal avec en route. On a des problèmes, l'agence va disparaître. Je dis, quoi ? De quoi tu parles ? Et Alain Dejean reprend l'appareil, il m'a dit, écoute, c'est trop compliqué à t'expliquer comme ça, viens, on a besoin de toi. Donc, c'est un peu surpris, je ne sais pas de quoi on parle, parce que nous, avec Eliane, on n'a entendu rien, on n'a jamais entendu un bruit de ce qui se passait, ou des comités de l'entreprise Gamma, ou des réunions. Pour nous, tout allait bien. On travaillait, on pensait qu'à une chose, la tête dans le guidon, on travaille tous les jours, on envoie tous les jours des reportages, et on ne pense pas à ce qui peut se passer. Donc j'arrive là-bas. Je n'arrive pas à voir Hubert, je suis là avec les autres photographes, on va d'un bistrot à l'autre, de la rue Vacry, on tournait autour. Et finalement, Vassal nous réunit et nous dit, si vous commencez votre grève, parce qu'on avait décidé, entre parenthèses, le mouvement de grève, c'était pas le photographe, c'était le personnel qui l'avait entrepris, si vous faites ça, nous on brûle vos archives, moi je brûle vos archives. C'est vraiment une phrase qu'il ne fallait pas dire, parce que dans la nuit, on est venu, on a raflé toutes nos archives. On était six, je crois, on était cinq, je crois, avec Noguès et Andanson, et
Simon Pietri, Bureau,
moi. Et on a pris toutes nos archives, on a laissé les photos, on a peut-être fait une erreur là, on a laissé nos noirs et blancs, et on a repris toutes nos couleurs, toutes nos planches de comptage, tous nos négatifs. Et on a tout entassé dans la voiture, qui était un peu forte et grosse, qu'avait Simon Pietri à l'époque, qui ne voulait plus démarrer du reste. Et la voiture, le coffre était tellement incliné, c'était une Jaguar, avec une grosse vieille Jaguar de quatre portes. Et les carburateurs SU sont des carburateurs à cuve. Et ils se sont vidés parce que la voiture avait trop le nez levé, donc ils se sont vidés, il fallait remplir les cuves, la pompe électrique ne marchait pas, donc bon, moi je savais réparer ça, c'était facile pour moi. Bon, la voiture a redémarré, hein, Danson est parti avec les archives et les amis dans son garage. Et moi je suis rentré à New York, donc je n'ai pas vu Hubert, je n'ai pas vu ce qui se passait ou ce qu'il avait l'intention de faire, et ce n'est que quelques jours plus tard que j'ai reçu une lettre commandée d'Hubert, à New York, en me disant « Je vous recommande de ne pas prendre vos archives. Vous feriez un acte illégal, ne le faites pas. » Mais c'était trop tard, d'abord. Et puis ensuite, franchement, on s'en foutait à cette époque-là. On avait toutes nos archives ensemble. Et ce qu'on voulait, en tous les cas, notre petit groupe, c'était de rester près d'Hubert. On reste pendant 2 mois avec un loyer à payer, avec des archives, on ne sait pas à qui les donner, à qui les vendre, à qui envoyer l'argent, surtout. Et finalement, très vite, Hubert nous a dit qu'il avait racheté une agence qui s'appelait Apis, qu'il avait le droit de la renommer. Il l'a renommée Sigma pour bien montrer la volonté d'avoir une compétition avec Gamma, notre lettre grecque. Et on n'a pas réfléchi une seconde. C'était avec lui qu'on voulait travailler. Puis on est reparti avec un autre nom. On est allé voir Time et Newsweek. Eliane a repris le bâton et ça a été fait dans la foulée.
Et ça a été une époque aussi formidable, parce qu'à ce moment-là commence le mouvement de libération de la femme, commence un changement de société.
Complètement. Les gays arrivent, les femmes sont dans la rue, on décide que c'est le jour de l'écologie. Il y a la crise extraordinaire où tout d'un coup, il n'y a plus d'argent pour acheter le pétrole. Alors on va prendre dans les réserves américaines qui durent 2 mois, on les vide, et puis le prix du pétrole monte, l'arrivée des voitures allemandes et non pas japonaises, d'abord la Volkswagen, le triomphe de la Volkswagen, et tout ça, ça a été des reportages extraordinaires à faire, des moments formidables de voir cette Amérique changer.
Et dans votre livre, on voit par exemple la première faillite de Détroit, qui résonne curieusement maintenant qu'on en est à la deuxième.
À la deuxième, exactement. Je suis arrivé dans une ville qui a été pratiquement brûlée, parce que les gens jouaient l'assurance, des quartiers entiers étaient brûlés, les gens quittaient leur maison et puis allaient récolter l'assurance, ça n'a pas marché longtemps. Et ces pauvres gens étaient là, désemparés, ces hommes surtout, ces travailleurs de Détroit qui connaissaient qu'une chose, c'était les usines Ford et General Motors, et qui savaient que faire ça dans la vie, c'est monter des voitures à la chaîne, et ils avaient des jobs très sécures, très ils comptaient beaucoup sur leur... Il n'y avait pas de problème, on vendait les voitures. Et puis tout d'un coup, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas d'essence pour faire marcher ces voitures. Il y avait des voitures consommées beaucoup trop. Et Détroit est tombé à genoux, s'est effondré avec ses énormes voitures. Et puis c'est le triomphe des Japonais et des Allemands. Ce qui m'a intéressé aussi, c'était, outre cette Amérique dure, solide, avec des tracteurs John Deere, Caterpillar, qui étaient... Il n'y avait pas de compétition au monde, c'était les meilleurs. Et puis, j'ai vu tout ce matériel qui ne se vendait plus. J'ai vu les fermes qui diminuaient de surface. J'ai vu les banques qui voulaient faire des prêts aux fermiers que les fermiers ne pouvaient pas remplacer, ne pouvaient pas rembourser. Donc, des grandes compagnies de bouffe américaine ont repris ces fermes, sont devenues des grands, grands propriétaires. Ils font aujourd'hui les cornflakes. Hein. Et ces gens ont été complètement laminés, ils étaient effondrés, ils ont eu des fermes venant de leurs parents, de leurs grands-parents, de leurs arrière-grands-parents, des premiers parents installés dans l'Ohio, l'Idaho, l'Illinois, etc. Et surtout au sud aussi, l'endroit où ils font du blé, et au nord, et au sud dans le Montana on fait aussi du blé au nord, et ces gens-là avaient l'habitude de faire tous les ans la même récolte, parce que c'était, leur avaient dit les parents, c'est ça, si on fume du maïs. Grosse erreur, et il fallait se diversifier, et ils ne l'ont pas fait, et ils en ont payé le prix. Et moi, ces gens-là, j'ai trouvé admirable, j'adore les fermiers, je suis resté près de 2 ans en tout, hein. C'est-à-dire, je passais 2 mois, puis 1 mois, puis je revenais, je repartais 2 mois, j'allais faire les récoltes avec eux, etc. Donc j'ai fait beaucoup de va-et-vient avec les fermiers, leurs difficultés. Les femmes du Montana, par exemple, je te donne juste une petite idée, les femmes des fermiers du Montana se sont coalisées ensemble pour comprendre pourquoi le blé rouge du Montana, que leur mari vendait aux Japonais, parce que les Japonais veulent avoir du pain blanc fabriqué avec ce blé américain venant du Montana, comment se fait-il quand il arrivait au Japon, dans les bateaux, il y avait 10% d'impureté. Il y avait des cailloux et il y avait de l'eau. Eh bien, ce sont les femmes qui ont compris que dans les péniches qui descendaient vers Seattle et qui amenaient leur blé magnifique, qui sortait des silos absolument purs, était par la mafia augmenté de 10% pour avoir du poids, pour faire payer. Pour, voilà. Donc les Japonais ont compris, ils ont répondu très vite, ils ont acheté d'abord les silos, et ensuite ils ont acheté les péniches, et finalement les bateaux. Donc aujourd'hui, grâce à ces femmes, les Japonais ont un blé rouge, un blé magnifique qui arrive chez eux sans cailloux et sans... Voilà, c'est une histoire comme ça que j'aimais beaucoup les fermiers. Tu vois les fermiers dans le nord américain, à partir de 3h ou 4h de l'après-midi en hiver, qui sont dans le noir total, ils travaillent avec la lumière. Alors tu as les petits moteurs qui font marcher la lumière, et ils se mettent à 5-6 fermiers qui viennent souvent de 2 heures de voiture. Hein. C'est pas, les fermes sont très espacées. Et voilà, pendant 3 nuits ou 4 nuits, dans les hangars, ils vont refaire le moteur de tel ou tel tracteur, de tel ou tel fermier copain à eux. Et ils se mettent ensemble et voilà, ils astiquent leur matériel pour les moissons. Et ils se groupent. Pendant ce temps, les femmes, ben, c'est la même chose. Elles sont groupées dans les grandes cuisines. Et elles ont des patrons qu'elles achètent dans des magazines, et elles font en commun leurs robes. Elles achètent les tissus. J'ai trouvé ça magnifique. Ça m'a vraiment ému beaucoup, beaucoup, beaucoup de voir ces communautés, ces fermiers américains.
Ce livre, c'est le paradis d'un photographe. C'est un portrait magnifique de l'Amérique à travers 3 décennies. Mais vous n'avez jamais eu envie d'en partir, de revenir vers la vieille Europe ?
Oui. Et non. Oui, parce que c'est la culture, on parle français chez moi, parce que j'écoute la radio française tous les jours, je regarde la télé française tous les jours, parce que les news, ben, c'est ma culture, je veux savoir ce qui se passe en français dans ma langue, et puis en plus, avec le wifi dans la maison, mais les radios qu'on veut, on écoute France Info dans la cuisine chez moi à New York en permanence. Mais c'est pas tout ça. Depuis les années 75, j'ai couru le monde, c'est pas l'Amérique. J'avais soif aussi de partir de l'Amérique, c'est évident. Mais je suis allé en Chine, je suis allé en Inde, je suis allé tellement longtemps en Russie, J'ai illustré le Japon, j'ai illustré la Corée, j'ai illustré la Taïwan. J'ai passé beaucoup de temps dans des pays neufs, dans des pays qui arrivaient, qui nous inondaient de produits qu'on achetait, à savoir d'où ils venaient, comment ils étaient fabriqués, leurs usines. J'ai illustré beaucoup, beaucoup des problèmes du tiers-monde. J'ai beaucoup fait de travaux. N'oublie pas également que j'ai reçu, en 1979, tout d'un coup, un jour, Hubert Henrot dit « Je sais pas, Lafond est parti, mais je sais pas, personne ne sait où il est ». En réalité, je suis parti avec mes sous. J'ai fait 15 pays. Et pendant 8 mois, j'ai photographié les enfants au travail dans le monde. J'ai fait la Mauritanie parce que je connaissais le pays. J'avais vu les petits esclaves noirs quand j'étais gamin. Je connaissais évidemment les petites filles au Maroc qui faisaient les tapis, ainsi que celles d'Égypte. Et puis les petits mécanos de Turquie. Et puis ensuite le Pakistan, c'est le même problème. Tous les adultes mécaniciens, ils sont sans problème, ils sont sans travail, parce que les enfants font les mécaniciens au Pakistan. Et puis aux Philippines, tous les travaux des champs, les travaux des rues sont faits par les gamins, et etc., etc. J'ai fait le tour du monde, même juste aux États-Unis, parce que je voulais montrer aussi qu'aux États-Unis, où du reste les lois pour le travail de l'enfant ne sont pas aussi sévères que dans beaucoup de pays. Et j'ai photographié tous ces petits Mexicains qui se mettent dans les orangers de la Californie au moment où il faut, en janvier, et qui font toutes les récoltes des oranges et des agrumes. Hein, c'est quand même des petits gamins mexicains qui sont dans les branches, pour ne pas casser les branches. Donc j'ai illustré tout ça, et j'en ai fait un gros pavé. Le premier, c'était Photo Magazine, Jean-Jacques Naudet, qui m'a donné de nombreuses pages. Et tous les magazines qui disent « Mon Dieu, quelle horreur, photographier des enfants au travail », parce que n'oublie pas que les enfants au travail, qu'est-ce que c'est qu'un enfant ? Dans la Charte des Nations Unies, un enfant, il a 12 ans, et un an, c'est plus un enfant, c'est un jeune adulte. Donc il fallait que je m'assure, en photographiant les enfants, qu'ils avaient tous au moins de 12 ans. Or, toutes les petites prostituées, les petits garçons prostitués de Bangkok, évidemment, à Papong, me disaient « photographie-moi ». Mais bien sûr, j'ai 11 ans, j'ai dit « c'est pas vrai ». Donc, j'ai photographié les prostituées. La plus jeune prostituée, elle avait 12 ans, et je l'ai photographiée à Bogota. Elle était enceinte, en plus. C'est une fille de l'assistance sociale de Colombie qui me l'a présenté, ainsi que d'autres filles. Et ce pauvre gamin, en Colombie, fabrique des briques toute la journée, comme en Inde, du reste. Donc, enfin, tu vois, pour te dire que j'ai fait autre chose, n'est-ce pas, que l'Amérique. J'ai fait d'autres sujets, et même souvent extrêmement riches pour moi, plein de connaissances, plein de découvrir des problèmes qui n'étaient pas ceux des Américains. Et je suis revenu en Amérique continuellement, et également en France continuellement, la famille où je reviens souvent. Donc, je suis revenu obligatoirement vers les États-Unis parce que j'y habite, mais d'un autre côté, quand tu restes trop longtemps dans un même endroit, tu vois plus rien. Hein, c'est ce que j'appelle l'érosion visuelle, c'est une expression en moi, je sais pas si elle est bonne ou elle fait rigoler, mais moi, quand je reste trop longtemps dans ma rue, je la vois plus. Je suis désolé, même s'il y a un guignol qui passe, je le vois plus.
Ça fait une collection de photos énorme. Vous avez une idée du nombre de films ?
Je dois avoir dépassé les 600 000 films. Et aujourd'hui, c'est ce que j'admire chez les jeunes avec leur appareil photo. Non seulement ils ne rechargent plus, parce qu'il y a une carte, tu mets une carte photo pendant un mois, tu as 2000 ou 3000 photos avant de recharger et de changer de carte. L'appareil fait ta balance des blancs, il fait la mise au point pour toi. Si tu veux un jour décider que la photo est en noir ou en couleur, tu appuies sur un bouton et elle est en noir alors que tu l'as photographiée en couleur. Tu n'as plus besoin de flash, les appareils aujourd'hui, les Sony travaillent jusqu'à 180 000 ISA, tu photographies la lune, à la lumière de la lune. C'est un rêve. En plus, il y en a qui ont des GPS. Le nombre de milliers de photos que j'ai, et je ne sais pas le nom du village, le nom même de la petite ville où j'étais, parce que j'ai perdu mes logs, j'ai perdu mes carnets, où ils se sont effacés, où il y a eu de l'eau dessus, où, ben, mon Dieu, il me manque 2 ans ici, etc., le nombre de gens que j'ai photographiés en conférence de presse sérieuse, où le contact est arrivé à Paris dans mon agence et personne n'a mis le nom, parce que moi j'étais correspondant étranger. Mmh. Je ne voyais pas mes reportages. Mmh. Je ne voyais jamais mes contacts. Ils ne mettaient pas le nom du gars que je photographiais, tu vois. Donc je me retrouve avec beaucoup d'inconnus, avec beaucoup d'emplacements que j'ai oubliés. Et c'est compliqué. Et aujourd'hui, le jeune photographe, ou la jeune photographe, avec le GPS, c'est exactement la minute où tu l'as photographié, le temps d'exposition, et l'heure à laquelle tu l'as fait. C'est extraordinaire. C'est un rêve pour moi de penser à ces nouvelles appareils photo. J'adorerais refaire ma carrière avec un appareil digital, je te dis pas.
WGR, c'est aussi sur les applications pour mobile et tablette.